Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, j'aimerais remercier Myriam qui fait un très beau dessin pour décrire un peu le message de ce matin. Le message de ce matin concerne sur le royaume des cieux. Et c'est pour ça que vous voyez ce dessin. Et voilà, donc c'est le titre de la prédication d'aujourd'hui, c'est « Est-ce que nous allons tous au paradis ?» Nous irons tous au paradis. C'est une chanson qui aimerait que tout le monde aille au paradis, mais ce n'est pas la vérité, ce n'est pas le cas. La Bible nous décrit qu'il y a quand même deux mondes, alors que il est clairement dit, en tout cas, enfin, alors que le monde aimerait que tout le monde aille au paradis. D'ailleurs, parmi les théologiens, un certain Origène avait même inventé une théorie qui s'appelle apokatastase, n'est-ce pas, Guillaume? Tu as appris ça il n'y a pas longtemps. Apokatastase, pour dire quoi? Que tout le monde sera sauvé. Tout le monde, sans exception. Les pécheurs qui n'ont pas cru, même les âmes damnées, ils iront au paradis, mais pas tout de suite, comme les chrétiens, mais ils iront au paradis après avoir passé pas mal de temps dans le purgatoire. Hein? Et puis que même les démons, le Satan, ira au paradis après avoir purgé leurs péchés. Ah là là, qu'est-ce qu'on peut inventer pour que tout le monde y aille? Mais on aimerait tous que tout le monde aille au paradis, mais ce n'est pas la vérité. La réalité, c'est qu'il y a quand même deux mondes différents. Alors, soit un chemin de feu ardent, ou soit un monde où règne l'amour, la joie, la paix de Dieu, la félicité, où nous vivrons éternellement, éternellement, éternellement. Ce n'est pas juste une période de vie, c'est éternellement avec le Seigneur, dans le bonheur éternel, mais soit dans le bonheur éternel, soit dans le malheur éternel. Il est dit dans la parole de Dieu que c'est dans un feu ardent où il y a des pleurs, des grincements de dents. Ça fait peur quand même de vivre dans ce genre d'endroit éternellement. La Bible utilise, je ne vois pas ici, si c'est normal. Ok. Ouais, c'est pas grave. Ok, d'accord. La Bible décrit plusieurs termes pour décrire le paradis. Voilà, il y a le mot paradis. Le mot paradis qui signifie enclos, jardin. On peut imaginer un petit peu le jardin d'Éden, où il y avait la présence de Dieu, où justement Adam et Ève vivaient dans le bonheur jusqu'à ce qu'ils pêchent. Mais en tout cas, dans le bonheur, à un moment donné, avec le Seigneur. Et puis, en fait, dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs fois où ce mot paradis apparaît, mais notamment, c'est Jésus qui parle, qui dit, en fait, Jésus a dit ce mot au moment de la crucifixion. Vous savez, il y avait donc deux brigands, et puis il y en avait un qui disait, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Et l'autre le reprenait en disant, « Mais ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui répondit, c'est à ce moment-là qu'il dit le mot « paradis ». « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Dans le paradis. Voilà donc le mot que Jésus a utilisé, le mot « paradis ». Je ne vais pas tout dire, tout décrire, tout ce qui est marqué, mais il y a le paradis, mais aussi il y a le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est spécialement Matthieu qui utilise ce terme, royaume des cieux, tout simplement pourquoi? Parce que Matthieu prêchait auprès des Juifs. Et les Juifs évitaient de prononcer le nom de Dieu, parce qu'il est tellement grand, on ne peut pas prononcer son nom. Hein? Et donc, Au lieu de dire royaume de Dieu, Matthieu disait royaume des cieux. Et là, les Juifs comprenaient ce que ça veut dire. Ce que ça voulait dire. Et donc, voilà, le royaume des cieux, pour parler de l'espérance future et même de présent. Et puis, dans Luc, Marc, nous voyons très souvent royaume de Dieu. Royaume de Dieu, effectivement. Parce que Luc et Marc prêchaient souvent pour les païens. Les juifs aussi étaient là, mais la majorité des païens. Puis Jean, lui, utilise vraiment très très rarement le royaume de Dieu parce que, en fait, il prêchait aussi pour la majorité des païens, mais aussi de temps en temps pour les juifs. Et puis, il y a un quatrième terme, Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem, décrite dans l'Apocalypse 21, c'est la ville céleste, parfaite, qui descendra du ciel à la fin des temps où Dieu habitera avec son peuple. Donc, cette Nouvelle Jérusalem symbolise l'accomplissement ultime du plan de Dieu dans le ciel, nouveaux cieux, nouvelle terre, où il n'y aura plus de souffrance, de mort ou de mal. Et où il y aura aussi une communion parfaite entre Dieu et son peuple. Ouais, c'est bien. Hein, vous aimeriez y aller? Vous savez, le monde n'aime pas parler de la mort, parce qu'il faut parler de la mort pour parler aussi de cette paradis. Et pourquoi pas, ils ont du mal à parler de la mort, tout simplement parce que c'est un sujet triste, effrayant, et ça devient même un tabou. Parce que pour eux, la vie après la mort n'existe pas. C'est pour ça qu'ils adoptent souvent pour règle de vie, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Mais ce qui frappe lorsque nous lisons la Bible, c'est que en fait, la mort n'est pas un sujet de tabou pour les croyants, pour ceux qui ont cette espérance, parce que nous savons ce qui nous attend, mais aussi, surtout, nous l'attendons avec impatience. Paul disait, voilà, Christ est ma vie et ma mort. La mort met un gain. Il était tiraillé entre aller rejoindre le Seigneur ou rester encore sur cette terre pour accomplir la mission que le Seigneur lui avait confiée. Il disait, voilà, s'il m'est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Il sait très bien que être auprès du Seigneur, c'est encore ce qui est encore mieux que ça, mieux que de rester sur terre. Et les croyants n'ont pas peur de la mort. Les croyants sont sereines, en paix. Vous savez, maintenant, ça fait déjà presque 24 ans que je suis dans le ministère. Je sers le Seigneur. Et j'ai quand même fait pas mal d'enterrements. Et je peux vous dire qu'il y a deux groupes de personnes. Il y a un groupe qui tiennent leur lit pour ne pas partir, pour ne pas mourir, parce que ils sont pas certains de leur avenir, de ce qui va se passer après la mort. Ils ont peur en fait de ce qui va leur arriver. Alors, à ce moment-là, je leur lis des paroles d'espérance pour leur donner, pour les aider à avoir la foi en Dieu, pour avoir une grande confiance en Dieu. Mais ils ont quand même peur. Et puis, il y a d'autres personnes qui ont une certitude qu'après la mort, il y aura le salut. Quand j'étais à Fastat, j'étais à une fête d'anniversaire, je me réjouissais de manger. Vous savez, l'Alsace, c'est très... On était vraiment au restaurant en plus, donc c'est une fête d'anniversaire. Waouh, il y avait plein de trucs. Et j'étais en plein repas, donc il y avait encore le dessert qui attendait. Et là, tout à coup, on me téléphone en me disant, écoute, Jean, tu peux venir parce que notre mère, tante Marthe, ne va pas bien. Et donc, j'ai dû abandonner ce bon repas pour aller rejoindre cette famille qui était dans la tristesse. Et effectivement, elle était en train de mourir. Et Elle a su que j'étais là, présent, donc elle a vu que j'étais présent, donc elle était consciente. Hein. Là, on avait fait un culte, elle désirait vraiment, voilà, elle était contente, heureuse, malgré les douleurs, elle était vraiment heureuse. Et je fais une prière, une dernière prière pour remettre son âme auprès du Seigneur. À ce moment-là, elle fait ça, en regardant un petit peu le ciel. Mais je me dis, mais voilà, j'ai l'impression que le Seigneur vient, quoi. Et j'ai fait une prière pour que le Seigneur prenne son âme. Et après la prière, elle est partie. Elle est partie. C'est beau, hein? C'est beau. Mon père est aussi parti comme ça, après la prière. On avait fait un culte ensemble il y a 2 ans. On avait fait vraiment une louange dans tout l'hôpital, hein, vraiment, avec un cœur aussi, parce que toute notre famille était présente. Et vous savez, notre famille chante bien. Donc on avait toutes les voix, soprane, alto, ténor, basse. Donc, c'était vraiment une vraie chorale. Et on a chanté tout très fort. Et puis, on avait fait un culte. Et après la prière finale, quand j'ai remis son âme entre les mains du Seigneur, il est parti après aussi. Incroyable, en paix, en paix. Ils attendaient que le Seigneur vienne les délivrer. Est-ce que vous avez cette certitude ce matin? Ha! Malheureusement, d'après Matthieu 13, il dit que en fait, le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer. Jésus compare le royaume de Dieu avec cette parabole, avec un filet jeté dans la mer. Et les pêcheurs, une fois ramassés des poissons, ils mettraient dans des vases ce qui est bon et ils jetteraient ce qui est mauvais. Et il dit, ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Voilà la réalité des choses. Il n'y a pas que le paradis, mais il y a aussi un endroit où beaucoup de pleurs, beaucoup de souffrances, des grincements dedans. Alors, comment y aller? Dans 1 Corinthiens, suivant, dans 1 Corinthiens 6, 9, il est dit que, en fait, les injustes, autrement dit, dans d'autres paroles, il dit que ce sont des méchants qui n'iront pas au paradis. Ce sont des injustes, les méchants qui iront à l'enfer. Ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et qui n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ce sont des impudiques, les idolâtres, les adultères, les efféminés, les infâmes, les voleurs, les cupides, les ivrognes, les outrageux, les ravisseurs, etc., etc. En lisant ça, je me suis dit, mais ça me concerne beaucoup. Et surtout, ça m'a rappelé la première fois où j'ai volé quelque chose. Vous me rendez compte? Votre pasteur est un voleur. Quand j'étais à l'école primaire, ma maman me donnait de l'argent de poche. Donc je prenais cet argent de poche, je passais ma journée à l'école et en revenant, j'étais super content parce que je savais que je pouvais manger des choses. Hein. Enfin, je peux pas vous dire, c'est trop difficile. En tout cas, il y a des choses super bons qu'on vend dans la rue. Et puis, je pouvais surtout passer dans une salle de jeu. Et donc, chaque jour, j'allais, avec cet argent de poche que je recevais, dans cette salle de jeu, je mettais l'argent pour faire des jeux. Et, sauf que je pouvais faire une ou deux fois. Je n'avais pas assez d'argent. Alors, donc, voilà pourquoi j'ai pris un petit peu d'argent dans la poche de ma maman, hein, une fois. Vous savez que pour la première fois, quand vous volez quelque chose, votre cœur bat. Je me dis, oh, mais c'est incroyable, je suis en train de faire de mauvaises choses. Mais la deuxième fois, troisième fois, là, vous ressentez moins de culpabilité. À la quatrième fois, je me suis fait avoir. Ma maman m'a attrapé. Parce qu'elle s'est dit, mais l'argent qui disparaît, mais c'est pas possible. Et mon fils aîné, il est tellement correct, c'est pas possible que ce soit lui. Ça doit être le cadet. Et c'était moi le cadet. Alors. Et donc, j'ai eu la honte de ma vie. Que tout le monde sache mon péché. Ça m'a fait vraiment, j'ai eu honte. Et, ça veut dire que d'après la parole de Dieu, les voleurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis ce jour-là, je suis foutu. Je ne peux pas aller au paradis. Au paradis. Alors, continuons. Qui sont les justes alors? Qui sont les justes? D'ailleurs, dans Matthieu 5, il est dit que pour ceux qui... Qui iront au royaume des cieux? Il est dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes, des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Ah, là on parle des œuvres, j'ai l'impression en tout cas. Matthieu 7, 21, il est dit que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul, qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Alors là, donc, ce que nous pouvons apprendre, c'est que même si vous venez à l'église, même si vous criez Seigneur, même si vous priez que oui, Seigneur, tu existes, je crois, c'est pas suffisant. C'est celui qui fait la volonté du Père, du Père. Alors comment nous devenons des justes? Dans Romains 3, il est dit que « car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Tout le monde est pécheur, tout le monde, sans exception. Certains pourraient me contredire, mais je connais une personne qui est tellement bon, qui fait tellement de bonnes choses, qui fait tellement de bonnes œuvres pour le prochain. Mais celui-là ne peut pas aller à l'église, au paradis, à l'enfer, c'est pas possible. Mais non, tout le monde, sans exception, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous ne pouvons pas aller auprès du Seigneur tel que nous sommes. Il faut la grâce de Dieu. Il fallait que quelqu'un paye à notre place. Et nous avons entendu le message tout à l'heure de Jean-François qui nous a partagé ce que Jésus a accompli sur la croix. Pourquoi il a accompli sur la croix? Oui, nous sommes maintenant justifiés, d'après Romains 3, par sa grâce et par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Effectivement, Jésus sur la croix a tout porté à notre place, nos péchés, notre condamnation. Et alors que nous méritions l'enfer, grâce à ce sacrifice, et surtout grâce à la foi que nous avons, notre confiance que nous avons envers Jésus, que nous sommes devenus justes. C'est Jésus-Christ qui a porté à notre place toutes nos fautes et nos péchés pour nous rendre justes devant Dieu. Et par amour pour nous, Dieu le Père a envoyé son Fils unique pour nous racheter, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 6, 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Oui, nous avons été rachetés à un grand prix. Et ce grand prix, c'était la mort de Jésus-Christ pour nos péchés. Oui, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Après la mort, oui, nous irons au paradis. Mais il se peut aussi que, comme aussi a dit Jeff, le Seigneur reviendra. Le Seigneur reviendra. Et il y aura, on appelle ça l'avènement de Jésus. Jésus revient. Et comment ça va se passer à ce moment-là? Dans Matthieu 27, il est décrit que, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Comme un éclair traversant le ciel d'est en Orient, d'ouest, le Seigneur apparaîtra dans les airs, dans les airs. Aussitôt à ce moment-là, le soleil s'obscurcira. Il n'y aura pas de lumière donnée par le soleil. La lune ne donnera plus non plus sa lumière. À ce moment-là, les étoiles tomberont du ciel et les puissants des cieux seront ébranlés. Le Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel et toutes les tribus verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Et il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Et il rassemblera ses élus des quatre vents. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais on verra, nous verrons tous que Jésus, dans les airs, en train de venir. C'est un peu fantastique, enfin, fantastique, oui, on peut dire ça. Enfin, c'est inimaginable, voilà. C'est un peu inimaginable, n'est-ce pas? Mais ça va se faire. Et dans d'autres versions encore, il dit encore, voilà, ceux qui vous, enfin, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est-à-dire que au moment où Jésus revient, si nous sommes toujours vivants, au moment où Jésus revient, il y aura des résurrections des corps. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées. Je peux aussi deviner que peut-être nous, les vivants, serons aussi transformés, je ne sais pas comment, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alors, si vous avez du mal à imaginer le corps ressuscité, le corps transformé, on pourrait imaginer Jésus ressuscité. Hein? Jésus ressuscité, il a mangé. Il a pu traverser la porte pour... Donc, il n'y avait pas de limitation pour lui. On pourrait penser aussi, pour nous, qui seront ressuscités avec les aïeuls en Christ. Après, il me reste combien de... Après, j'aimerais vous inviter à écouter une prédication de Jacques Buchol pour savoir comment ça sera la terre après. Nouveau Jérusalem, Nouvelle Jérusalem sera faite comment? Est-ce que ce sera la terre actuelle ou cette terre sera détruite et il y aura de nouvelles choses, une nouvelle planète? Donc, voilà, c'est deux choses. Si je résume un petit peu, vous savez, il y a plein de versets qui disent dans Psaume. Voilà, dans Psaume, il disait que, en fait, tu remplaceras, ils disparaîtront. Dans Ésaïe, il dit, toute l'armée du ciel tombera en pourriture et le ciel s'enroulera comme un livre, je ne sais pas comment... Vraiment, ce que Ésaïe avait vu, mais il a vu des choses extraordinaires. Le ciel s'enroulera comme un livre, tous les astres, donc les étoiles, tomberont, se décomposeront, comme se décomposent les feuilles de vigne ou du figuier. Donc, voilà. Et Matthieu dit que le ciel et la terre passeront, Apocalypse, le ciel et la terre s'enfuirent loin de sa présence et ils disparurent sans laisser trace. Donc ça, ce sont des paroles qui sont en faveur de la disparition totale de la terre et des cieux aussi. Après, Jacques Buchol, lui, il donne, il cite dans 2 Pierre 3 pour parler de la restauration. En fait, il dit que, Pierre parle de deux choses. La destruction totale finale où Jésus reviendra et il y aura un jugement final, mais aussi en parlant de la destruction, en citant l'événement de déluge, il utilise le même mot, la destruction. Et donc, en fait, même après avoir utilisé le mot destruction, la terre est restée la terre. Et c'est pour ça que lui, il pense vers une restauration de la terre. Quoi qu'il en soit, si vous me posez la question, et toi Jean, qu'est-ce que tu penses? Parce qu'il y a tellement de personnes qui pensent littéralement la disparition totale, et puis une restauration de part et d'autre, bah, pour moi, c'est entre les deux. C'est-à-dire que, bah, on sait très bien que moi, j'ai imaginé la résurrection des corps lorsque Jésus revient. En fait, quand nous pensons toutes ces personnes qui sont mortes et qui sont devenues poussière, Dieu avait fait en sorte que ces poussières reviennent et que deviennent un corps. Hein? De même, je pense que la terre, si elle est détruite, bah, le Seigneur aussi remettra en place pour une restauration de cette terre. Hein? Enfin, bref, je ne sais pas si on peut toujours appeler la terre, mais en tout cas, voilà, ce sera quelque chose qui est tellement, enfin, à mon avis, c'est quand même oser de vouloir imaginer ce qui va se passer, parce que c'est tellement grand, c'est tellement, voilà, parce qu'il y aura, voilà, le ciel en feu, parce que nous avons, la terre a déjà été jugée par l'eau, mais au moment du jugement final, bah, tout le monde entier sera jugé par le feu. Et en feu se désagrégera les éléments embrasés et les éléments embrasés fondront, etc., etc. C'est ainsi que bah, nous verrons un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Alors pour terminer, voilà, j'ai vite fait. Pour terminer, il y a quand même un enseignement très important lorsque nous parlons du royaume de Dieu. Parce que la Bible parle aussi du royaume de Dieu sur terre. Ce n'est pas seulement un futur, un lieu où nous irons après la mort. Ce royaume de Dieu est déjà en nous. Ce royaume de Dieu est déjà ici et maintenant. Dans Matthieu 12, 18. Ouais, royaume de... avant, voilà. Ah non, il n'est pas là. Dans Matthieu 12, 18, il est dit que, voilà, je mettrai mon esprit... Enfin, non, je vais plutôt lire Romains 14. Il est dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à partir du moment où vous pratiquez la justice... C'est là où nous verrons le royaume de Dieu se manifester. À partir du moment où, malgré les circonstances difficiles, malgré les maladies, malgré les difficultés, malgré les conflits, si vous restez serein et vous pratiquez la justice et que vous gardez la paix et la joie, c'est à ce moment-là que le royaume de Dieu se manifeste dans votre vie personnelle. J'aimerais donner un petit exemple. Vous connaissez Pierre, l'apôtre Pierre, lui qui était tout flamme pour le Seigneur, au moment de la crucifixion, bah, il a renié trois fois Jésus. Un poltron, on peut dire comme ça. Mais une fois qu'il avait reçu l'Esprit Saint, il est devenu très courageux. Il a pu expérimenter cette paradis terrestre avec la présence divine. Et ensuite... Il se fait emprisonner parce que, voilà, hein, et pour être tué comme martyr. Et là, il sait très bien que bientôt, il va mourir. Il va mourir en prison, il est emprisonné. Et pendant ce temps, les gens prient pour sa libération. Mais là, en prison, vous savez ce qu'il a fait? Il a dormi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Est-ce que vous arrivez à dormir sachant que le lendemain, vous allez mourir? Hein? Normalement, on a peur. Mais lui, il n'avait pas peur. Il était en paix. Au point qu'il dormait tellement profondément que l'ange a dû venir le frapper pour le réveiller. Hein? Enfin, je ne pense pas qu'il a frappé avec ses jambes, mais il a dû frapper avec eux, hein? Dans les côtes. C'est pas... Pierre, lève-toi. Non, Pierre, lève-toi. Il était tellement en paix parce qu'il était déjà dans le royaume de Dieu. Dans les moments, oui, on peut vivre des moments difficiles. Mais est-ce que vous, et moi aussi y compris, est-ce que nous pouvons justement vivre cela dans notre famille, dans nos lieux de travail, dans nos écoles, dans nos relations avec nos enfants, nos parents, ou nos voisins aussi, et être en paix, être juste, et surtout pratiquer l'amour du prochain. Est-ce que nous pouvons faire ça? Est-ce que nous pouvons vraiment montrer cet amour? Merci en tout cas de montrer, voilà. Nous sommes encore sur terre, et nous sommes limités par certaines choses, mais on peut déjà expérimenter ce ciel sur la terre. Dans 2 Corinthiens 1, 12, 22, il est dit, « Il nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit, c'est-à-dire la compte de l'Esprit de Dieu. » Dieu nous a marqué de son sceau et a mis dans nos cœurs son Esprit. Nous demeurons maintenant avec lui. Lui avec moi, moi avec lui. Et cet Esprit, pour le Seigneur, c'est comme un acompte des biens à venir. Vous savez, il y a 2 semaines, j'ai dû payer un acompte pour la réservation de notre week-end d'église qui aura lieu l'année prochaine. Je sais que le propriétaire du centre attend recevoir toute la somme nécessaire pour notre séjour chez eux. Mais ils n'ont pas encore tout reçu, parce qu'on ne les a pas encore tout payés. Mais il a juste reçu un acompte, et avec cet acompte, il sait qu'il va recevoir tout le reste. L'Esprit Saint, c'est un peu comme ça. C'est un avant-goût. Enfin, je ne sais pas si vous êtes allé aussi dans des supermarchés, on peut goûter certaines choses avant d'acheter. Hein? C'est un peu ça, quoi. Hein? Et quand vous achetez quelque chose après avoir goûté, vous êtes impatient de faire de la bonne cuisine à la maison, n'est-ce pas? Je pense que nous avons déjà reçu l'Esprit de Dieu. Et nous sommes impatients de vivre pleinement cette bonheur éternel avec le Seigneur. Un avant-goût déjà reçu. Incroyable, n'est-ce pas? Je vais terminer parce qu'il est un peu là, il est tard. J'aimerais vraiment qu'on puisse vraiment penser davantage ce qui est en haut, non pas ce qui est en bas. Est-ce que vous désirez vraiment ou vous espérez aller au paradis un jour? Croyez et affectionnez-vous, c'est-à-dire désirez davantage aux choses d'en haut, non à celles de la terre, d'après Colossiens 3, 2. Préparez-vous pour l'éternité. Investissez dans la vie éternelle et prions pour que le royaume de Dieu soit déjà sur ma vie, dans ma vie, sur cette terre, et que sa volonté soit faite dans nos vies et dans nos familles. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur, parce que tu es vraiment un Dieu juste, et c'est parce que tu es un Dieu juste que nous méritions tous ta colère. Mais tu nous as tellement aimés, tu as envoyé ton Fils pour nous sauver, pour que ton Fils porte à notre place tous nos fardeaux, tous nos péchés, toute notre condamnation. Merci pour cette grâce. Merci aussi de nous donner cette foi inébranlable pour suivre la voie que tu as tracée devant nous. Merci aussi pour la vérité, enfin pour cette vérité d'avènement de Jésus. Oui, toi tu reviendras. Aide-nous vraiment aussi à préparer, à mieux te recevoir pour te rejoindre dans les airs un jour. Ou peut-être, oui, nous serons dans les airs, soit de notre vivant, soit en étant ressuscités. Merci encore de nous donner aussi plein de courage, mais aussi ta sagesse, ta parole, pour suivre, pour accomplir ta volonté sur cette terre, pour pouvoir aussi hériter ainsi ton royaume, le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Merci pour ton amour, merci pour ta présence avec nous. C'est au bon nom de Jésus que nous te prions. Amen.